nous allons recommencer sur le cours 4, le chapitre 2. On va voir du verset 1 à 13. La semaine passée, on avait vu plusieurs points. On avait discuté un petit peu. J'aime beaucoup ça parce qu'on apprend les uns les autres. Le Seigneur vous donne des choses que moi, je n'ai pas vues. Alors, j'apprends de ce que vous me dites à moi, de vos opinions. Moi, j'apprends aussi parce que le Seigneur est comme ça. Il est bon à ce point-là qu'on s'édifie les uns les autres par les différentes opinions. J'aime ça. Le but, mes frères et sœurs, ce n'est pas de venir et passer le temps, un temps agréable à l'Église, que c'est déjà bien d'être ensemble. C'est la volonté de Dieu que nous soyons ensemble. Mais le but, c'est d'apprendre la parole, garder la parole pour vivre de meilleures vies le lendemain. Alors, c'est ça le but. Souvent, je regarde certains mots, surtout quand on étudie la parole, il y a des mots parfois très connus qu'on utilise souvent dans le vocabulaire chrétien ou même dans la vie courante. Que si on nous demande une définition, on a la misère à donner des définitions dans des mots très, très, très connus. Mais on parlait de soumission et obéissance. Et vraiment, le petit Larousse illustré ne fait pas une grosse différence. Comme je vous disais, le fil des différences, si on peut dire, c'est tellement mince. Le dictionnaire le met quasiment comme un synonyme l'un de l'autre. Parce que si vous regardez soumission, et il vous donne certaines définitions, certaines phrases, mais il vous envoie à obéissance. Vous regardez leur définition d'obéissance, il vous envoie à soumission. Alors c'est un... juste pour que ce soit clair, que c'est à peu près la même chose. Hein. Quelqu'un qui se soumet, c'est quelqu'un qui obéit. Peut-être la petite nuance, c'est que parfois on doit se soumettre malgré nous. Mais l'obéissance, c'est peut-être un peu plus conscient, un peu plus volontaire, je ne sais pas, mais... il n'y a presque pas de différence. On doit obéir, en tout cas, l'enseignement de la parole. Et maintenant, on va voir, si vous voulez ouvrir la Bible, dans Jacques, le chapitre 2 et les versets 1 à 13. Jacques dit comme ça, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, et un habit magnifique, et y entre aussi un pauvre misérable, misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres au-dessus du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez les pauvres, ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, ne pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Comme introduction, j'ai mis un certain paragraphe, je vais vous le lire. La Bible parle d'une voix forte et claire quant aux riches et leurs richesses. De nos jours, plusieurs utilisent l'Écriture pour critiquer ceux qui possèdent des biens matériels. Quelle est l'attitude de Dieu face aux richesses? Jacques 2, 1 à 13 présente un aspect important de l'enseignement biblique quant aux riches. Plusieurs ont mal appliqué ce passage. C'est quoi le point principal que l'auteur touche ou critique dans ce passage? Regardons bien, Jacques n'est pas en train de critiquer ni les riches ni leurs richesses. Le point important pour lui est le point de vue du monde par rapport aux riches et l'attitude qu'ils doivent avoir les chrétiens face à la parole du Seigneur. Selon l'auteur, eux, entre parenthèses, les chrétiens juifs, à cause de leurs souffrances, ont péché contre leurs frères. Ils sont avantagés ceux qui ont des possessions pour que ceux-ci, à leur tour, leur donnent un coup de pouce. De nos jours, on continuera à faire la même erreur, malheureusement, si on persiste à voir les richesses du point de vue du monde. Lisons le passage suivant et voyons les principes que Dieu montre quant à l'argent et les richesses en général. Pourquoi je vous lis ça? Parce que, premièrement, pour nous mettre en contexte, Jacques peut-être a été la première épître écrite pour le peuple chrétien de ce moment-là. On situe le martyr de Jacques à peu près dans l'année 62 de notre ère. Alors, ça veut dire que mon calcul, c'est pas exact, bien entendu, mais les historiens disent que peut-être que Jacques a été écrit entre les années 40, 48, à peu près de notre époque, de notre ère. Et ça veut dire que Jacques devient, comme d'une certaine façon, la première épître écrite pour l'Église chrétienne. Il cite beaucoup l'Ancien Testament et selon les premiers versets, quand il parle de l'Assemblée, le terme qui a été traduit « Assemblée », en vérité, c'est le même terme qu'on utilise pour dire « synagogue ». Jacques a dans la tête, pas une église comme lieu de réunion, mais il a en tête toujours la synagogue comme le lieu pour adorer le Seigneur. N'oubliez pas que l'église chrétienne a commencé avec quel peuple? Le peuple juif. Les premiers chrétiens étaient des juifs. Alors Jacques parle dans ce contexte-là, et quand il dit aux 12 tribus dans la dispersion, il a en tête pas tout le peuple d'Israël comme nation, mais il a en tête les Juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, c'est-à-dire les premiers chrétiens, ceux qui sont croyants, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui font partie maintenant de l'Église de Jésus-Christ. Alors, il parle de cette façon-là, et c'est pour ça qu'il est comme, on voit Jacques comme quelqu'un très, très légaliste. Il y a beaucoup en tête l'aspect de l'Ancien Testament, mais il applique toujours selon la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on sent qu'il est comme dur dans sa façon de parler. Il est comme très austère et légaliste, mais dans le bon sens, le légaliste, parce qu'il est très, très collé à la parole du Seigneur. Il veut l'appliquer d'une certaine façon. Il met l'emphase sur la pratique de cette parole-là. Il voit la foi doit être active. Mais pour aller dans l'ordre, nous allons voir certains passages qui nous parlent comment les croyants doivent observer les principes dans les passages. Par exemple, 1 Timothée 6, chapitre 6, verset 6.
Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Ils plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et sont jetés eux-mêmes dans la plus grande douleur. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douleur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins.
Merci. Il y a plusieurs principes dans ce passage. Pour moi, j'ai voulu faire que nous voyions certains principes pour ne pas tomber dans le piège du matérialisme. Vous savez, la Bible ici dit « car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Et c'est vrai, juste pour vous raconter une expérience d'une famille que j'ai connue, mais une famille chrétienne, un couple avec les enfants très fidèles dans l'église. Ça s'est passé ici à Montréal. Et cette famille venait à l'église. Une famille qui servait, qui était impliquée dans certains ministères de l'église. Fidèlement, tous les dimanches, ils étaient là pour les études bibliques et on les faisait les vendredis à l'église. Ils étaient là. Un jour, le Seigneur les a bénis, mais ils ont mis sur pied une petite compagnie de ménage. Au début, tout continuait pareil, comme bien et tout. Ils ont commencé à avoir trop de contrats, de telle façon que, oups, un jour, ils n'étaient plus là. On était inquiets, pas parce qu'on voulait juger nos frères, mais ils sont toujours fidèles. C'est sûr que quand on remarque quand quelqu'un de fidèle manque à un moment donné à l'église, on les appelle, comment ça va? On était inquiets parce que vous n'étiez pas là. Bon, non, c'est parce qu'on a ajouté des contrats. Ils se sont matérialisés à vouloir plus et plus et plus. Que je ne sais pas à ce moment-ci s'ils sont retournés à un moment donné à l'église ou ce qu'ils sont, parce qu'à un moment donné, ils commençaient à manquer, pour travailler, pour avoir un peu plus d'argent, pour grandir dans l'aspect matériel. À un moment donné, ils ont délaissé l'église complètement. Alors, c'est de ça qu'il parle, d'une certaine façon. Jacques Parce que qu'est-ce qui nous amène à travailler davantage, à déplacer le temps de Dieu et mettre le travail à sa... Moi-même, vous allez voir, malheureusement, l'été, moi je ne viens pas à l'église. Mon travail pour l'été, il me demande de travailler la fin de semaine. Et je n'ai pas le choix. Mais ce n'est pas parce que je veux le faire. Il y a une différence. Quand moi, c'est moi qui contrôle le temps. Et moi, je prends le temps de Dieu pour placer le travail parce que je veux gagner davantage d'argent. Alors, il y a une différence. Je ne parle pas de ça. Mais plusieurs, peut-être, se sont égarés de la foi à cause de l'amour pour l'argent, le matérialisme. Ça, c'est un phénomène peut-être qui passe plutôt, je ne pourrais pas dire dans le contexte québécois, pur laine, les Québécois de souche. Mais nous qui sommes venus dans cette société, c'est comme moi, j'ai mon expérience en tant que chrétien, je vois que on a tendance à se matérialiser trop. Les immigrants, parfois, je ne parle pas de tout le monde, mais j'ai déjà vu plusieurs personnes qui viennent et puis commencent à s'obséder pour avoir beaucoup, avoir une grosse maison. S'ils ont une maison de 3 chambres à coucher, ils veulent des 5 chambres à coucher, puis toujours quelque chose comme ça. Il faut avoir le contrôle, mes frères. Il faut avoir le contrôle. C'est pourquoi je parle de ça? Parce que le premier principe, c'est le contentement. Il faut que je sois heureux avec ce que le Seigneur m'a donné. Aujourd'hui, si je suis bien, si je ne suis pas endetté, si je m'en sors bien, j'ai la nourriture suffisante pour ma famille et moi, j'ai une maison, j'ai une belle Toyota, soyons contents. Ne cherchons pas, si le Seigneur nous le donne, travaillant avec le temps normal de travail, gloire à Dieu. Soyons sages et ne pas déplacer le temps de Dieu et Dieu lui-même, juste pour avoir un peu plus. Alors le premier principe, c'est le contentement. Et deuxième principe, l'amour de l'argent peut nous égarer la foi. C'est ça que je viens de dire. Troisième principe, le chrétien qui veut glorifier Dieu doit fuir le matérialisme et doit chercher la foi, la charité, la patience et la douceur, entre autres. Donnons la priorité à Dieu. Mettons à Dieu dans la première place dans nos vies. Ça va nous éviter de nous égarer, de prendre le contrôle sur l'aspect matériel. Quatre, les riches doivent laisser leur orgueil aussi, faire de bonnes œuvres et mettre leur espérance en Dieu s'ils veulent saisir la vie éternelle. Où est-ce que je trouve ça? J'ai regardé le verset 18 et 19, dit « Recommandez-leur, de qui qu'ils parlent, c'est des riches, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » C'est ça que l'apôtre est en train de parler. Alors, il donne aussi un conseil aux riches, que c'est un conseil valable pour nous. Est-ce qu'il y a des chrétiens riches? Oui. Est-ce que dans la Bible, il y a des exemples de personnes riches qui ont aimé Dieu? Oui. Abraham, hein? Abraham serait de nos jours comme Bill Gates. Il aurait des milliers de millions de dollars. Et pourtant, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. La Bible n'aimait pas l'argent, la racine de tous les maux, hein, mais l'amour à l'argent. Alors c'est nous le problème. Ce n'est pas l'argent comme tel, c'est moi le problème. Comment est-ce que je vois l'argent? Comment est-ce que je vois les choses matérielles? C'est quoi mon attitude envers les choses matérielles? Où est-ce que je mets Dieu dans ma vie personnelle? Est-ce que je le mets dans la première place ou je le mets après que j'ai tout fait? Malheureusement, il y a des croyants que l'église, si j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, bon, je ne vais pas à l'église. Bon, je vais lire la parole de Dieu si j'ai le temps. On ment à soi-même et on n'est pas vraiment dans la vraie pratique de la vie que Dieu veut quotidiennement. Si nous allons voir un autre exemple dans Hébreux, c'est à peu près la même chose. Vous allez voir Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors encore, le principe du contentement, d'être content avec ce que nous avons. Et encore, le principe de l'amour à l'argent est là. La foi et la confiance en Dieu et ses promesses. Alors, on doit dépendre de Dieu et ce que Dieu dit dans sa parole et les promesses que Dieu a pour chacun de nous. Est-ce qu'on est conscient que Dieu va accomplir ses promesses envers nous? Est-ce qu'on est conscient que Dieu pourvoit chaque jour pour nos besoins? Oui, il le fait. Et il le fait en abondance. Tu sais, quelqu'un qui, s'achète une voiture, un modèle récent ou neuf, C'est bien, mais ne soyons pas amenés par l'orgueil et par le désir d'avoir plus et toujours plus et plus et plus. Et à l'année prochaine, je suis déjà endetté, mais je veux la nouvelle parce que ben, vous savez, la publicité est bonne, hein? Puis ça nous touche.
La meilleure façon de savoir si tu achètes du farfelu, c'est quand tu te poses cette question. En ai-je vraiment besoin?
Ouais.
Ça, c'est la bonne question. Et réfléchir. Hein? Parce que parfois, on réfléchit, mais on a déjà pris la décision. Hein?
Quand Jacques a été écrit, là, il n'y en avait pas de publicité.
La convoitise a toujours existé, le contexte a changé. Mais selon chaque contexte, la convoitise des personnes a été pareille. La convoitise, c'est ce qui nous amène toujours au mauvais point, aux mauvaises choses. Alors il faut faire attention. Il faut avoir la foi et la confiance en Dieu et ses promesses. En vérité, qu'est-ce que Dieu a dit? Il suffit à chaque jour sa peine. Pourquoi me compliquer pour le lendemain? Ou pourquoi je vais compliquer le lendemain? Parce que souvent, c'est moi qui complique le lendemain. Hein? Il nous a donné les choses en surabondance. Quand on n'a pas de travail, Dieu, d'une façon ou autre, il nous donne ce que nous avons besoin. Et on doit être remerciant, vraiment, parce qu'on a plus de ce que nous avons besoin. Le point, je crois, de ne pas être obsédé et agir avec sagesse, contrôler toujours en donnant la priorité à ce que doit avoir la priorité. Et la priorité, c'est Dieu. Et dit en passant ici, le point central de l'enseignement de ce matin, c'est l'acception des personnes, le favoritisme. Alors, je voulais voir ces principes-là, parce que ces principes-là qui nous écartent vont nous dévier de la volonté de Dieu, de ce que la parole de Dieu veut que nous fassions.
Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. C'est ce qu'il disait tout à l'heure.
Le chrétien doit plutôt amasser, entre guillemets, des trésors dans le ciel. C'est ça que la parole nous enseigne. Le cœur aime ce que nous lui disons d'aimer. C'est-à-dire, là où nous mettons notre intérêt, les choses que nous avons pour but, c'est ça que nous allons mettre toute notre force, tout notre effort, et nous allons lutter pour l'avoir. Et combien d'entre nous luttons, par exemple, pour persévérer dans la foi? Parce que parfois, on croit qu'on persévère dans la foi juste pour le fait de venir à l'église. Il faut que nous soyons conscients. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui me donne la spiritualité. Je peux venir à chaque jour à l'église et être très, très charnel. Parce que parfois, on veut excuser nos fautes, vivre avec chaque jour selon ce que Dieu me demande. Et je ne dis pas qu'on ne va pas manquer. Moi, je suis le premier à manquer à chaque jour, peut-être. Mais c'est quoi? Comment tu mets ton effort pour faire ce que Dieu veut que tu fasses ou que je fasse? C'est ça la différence. Mais il faut que je cherche plutôt à servir Dieu. Lesquels sont les trésors qui perdurent, qui vraiment restent? Les trésors que je fais pour la gloire de Dieu. De la façon dont je fais mon ministère, par exemple. Paul exhorte aux chrétiens le ministère qu'il nous donne. Le faisons-nous avec joie? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu vraiment avec le service que je fais dans l'église? Est-ce que je suis vraiment en train de regarder les besoins de mes frères et venir à leur soutien financièrement si c'est nécessaire? Parce que c'est ça, la foi agissante, la foi vive, entre donc les uns les autres. Et c'est ça, on a même vu que les 10 commandements, par 4 commandements, on a vu la relation directe croyant Dieu et 6 commandements dans la relation horizontale avec frères. Alors Dieu donne une importance très, très, très grande. Comment est-ce que nous avons une relation? Comment est-ce que nous nous entraidons? De quelle façon est-ce que j'aime mes frères? Est-ce que je suis vraiment en train d'aimer mes frères, malgré qu'ils ne me disent pas bonjour le matin? Mais si je vois qu'il a un besoin quelconque, je suis prêt à l'aider. C'est ça que Dieu veut. Juste pour finir ce principe-là, Luc 18, 25 à 29.
Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient disent: et qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle.
Qui parle? Jésus-Christ, hein? Jésus-Christ. Dans quel contexte qu'il parle? Il vient de parler à le jeune homme riche. Le Seigneur lui dit, va et accomplis tous les commandements de Dieu. Il a dit, j'ai vécu une vie vraiment bonne. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit, il te manque seulement, va dans tes biens aux pauvres et suis-moi. Et c'est là le problème. Il y a plusieurs chrétiens qui sont fidèles jusqu'à ce que, si moi j'appartiens à Dieu, tout ce qui est à moi appartient à Dieu. C'est ça la vraie attitude d'un croyant. Ma voiture doit servir pour le Seigneur. Si je vois quelqu'un qui a besoin, je dois l'aider. N'importe quel besoin, je dois être prêt à aider mes frères. Mais souvent, on n'est pas vraiment disposé. Et selon ce passage, les riches, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est impossible qu'un riche soit sauvé? Non. Il est en train de dire difficilement un riche sera sauvé. Pourquoi difficilement un riche? À cause de la richesse. À cause de la richesse, on a posé la question une fois à un milliardaire. Quand est-ce que vous serez content quand j'aurai un petit peu plus? C'est ça sa réponse. Ça veut dire jamais. Il ne sera jamais content parce qu'il va vouloir toujours un petit peu plus. Soyons contents. Le contentement, c'est ça que Dieu veut pour les croyants, pour nous épargner de ce problème-là, de ce problème du matérialisme, de marcher selon le monde et non pas selon ce que le Seigneur veut. Les riches sont difficilement sauvés. Et ceux qui placent Dieu devant les biens matériels seront récompensés par lui. La question de Pierre. Hein? Nous avons toutes les sèmes, Seigneur. Et c'est quoi la réponse de Dieu? Est-ce que la promesse du Seigneur il est seulement pour la vie éternelle ou pour le siècle présent? Le siècle présent. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ nous va faire millionnaires à tous? Il ne faut pas prêcher l'évangile de la prospérité. Hein? Ça, c'est une mauvaise doctrine. Oh, si Dieu est le propriétaire de toute la richesse du monde. Est-ce que Dieu veut qu'il y ait des croyants pauvres? Non. Tous les croyants doivent être riches. On est riches, mais spirituellement parlant. Et le Seigneur donne à chacun selon son besoin, leurs besoins. Deux principes qui sont là.
Il y a dans Proverbe 30, ça dit, « J'ai demandé deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. » Ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi de pain de mon ordinaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise qui est l'Éternel, de peur ainsi aussi que dans la pauvreté je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu.
Voilà, c'est impliqué le principe du contentement. Être content avec ce que j'ai présentement. À chaque jour suffit sa peine. Je dois être content, je dois glorifier le Seigneur d'avoir ce que j'ai pour la journée d'aujourd'hui. N'oublions pas que le contexte de Jacques, il faut tenir toujours en tête ce contexte-là. C'est un contexte de persécution. C'est le premier siècle, c'est quand les chrétiens ont commencé à être persécutés. J'ai parlé dimanche passé que l'Église s'était appauvrie, l'Église de Jérusalem, à cause que tout le monde, si vous voyez dans Actes, l'Église était ensemble, habitait tous ensemble. Et celui qui avait, mettons, une maison, allait et vendait leur propriété pour partager avec ceux qui n'avaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec le temps, non? C'était pas la plupart de l'Église qui avait des possessions. C'était une partie minime, oui. Alors, ils ont vendu tout. À un moment donné, la pauvreté s'est installée dans l'Église de Jérusalem, à tel point que Paul remercie plus tard, quand il écrit des épîtres, à ceux qui ont mis des offrandes pour les pauvres de l'Église de Jérusalem. Alors, parce qu'ils étaient vraiment pauvres, dans tous les sens. Mais ce contexte-là était un contexte aussi de persécution et de pauvreté. Alors, il paraît, il y a des commentaristes qui disent que c'était vraiment passé des choses, que Jacques n'est pas en train d'imaginer des choses, mais qu'il amène le point de ne pas faire de favoritisme parce que c'est passé des choses vraies dans l'Église. Alors, il y a un aspect qui attire mon attention quand il dit que ce ne sont pas les riches qui outragent le bon nom que vous portez, qui c'était les riches? Alors, ça veut dire qu'il y avait une interaction de l'Église avec certains riches qui, d'une certaine façon, opprimaient ou offensaient le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ça que ça veut dire. Certains commentaristes, ils disent qu'il semblerait qu'il y avait de vraies attitudes de favoritisme dans l'Église. Quand il y avait quelqu'un, à cause peut-être de la pauvreté dans laquelle les croyants étaient, quand il arrivait un riche, il voulait comme lui donner une place d'honneur pour avoir une compensation plus tard. Ah, lui, il m'a bien reçu dans l'église, Ah, peut-être je vais lui faire un petit cadeau plus tard. Il faut faire attention à ça. J'ai mis dans le deuxième point que j'ai ce matin, une foi vive n'est pas discriminatoire. On ne doit pas discriminer nos frères, c'est un péché. Dieu ne fait pas d'exception de personne, alors il ne veut pas que nous fassions d'exception de personne. Moi, ça m'amène à un point, si on le met dans un aspect pratique dans l'Église, est-ce qu'on fait exception de personne dans l'Église? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on discute, est-ce qu'on commet de nos jours, dans nos églises contemporaines, est-ce qu'on fait des exceptions de personnes, parfois nous les croyants?
Il faut faire la différence entre affinité et favoritisme. Il va y avoir dans une église, dans n'importe quelle église ou n'importe quel bureau, quel que soit l'endroit, des gens qui vont avoir plus d'affinité avec quelqu'un par rapport à un autre. Le favoritisme va se voir dans le cas où on devrait être sur le même pied d'égalité, mais plus que je t'aime plus que lui, je vais t'accorder plus de choses, plus de temps, bien.
Là, je vais t'accommoder plus par rapport à l'autre.
Oui, il faut faire cette différence-là. Il y a une affinité plus accentuée avec certaines personnes, et ça, c'est naturel. C'est normal, ça. Ça arrive. On est des personnes, malheureusement, qu'est-ce que tu veux, c'est que nous soyons amis, tout l'Église. Mais soyons réalistes, hein. Parfois, c'est pas avec tout le monde, malheureusement, soit parce que la personne ne le permet pas. Moi, je dois prier pour avoir une amitié en général avec tout le monde. Mais c'est très difficile d'avoir l'intimité, disons, dans l'amitié avec tout le monde. Mais regardez, mes frères, c'est naturel que nous ayons l'affinité avec certaines personnes. C'est normal, ça. Moi aussi. Avec certaines personnes de l'Église, j'ai une amitié plus intime qu'avec d'autres. Mais j'agis toujours ouvertement pour que la personne avec laquelle je n'ai pas cette affinité-là puisse se développer. Est-ce que je suis ouvert? C'est ça le point. Ou est-ce que je garde toujours mon cercle? Mon cercle est hermétique. Personne d'autre ne vient rentrer dans mon cercle. C'est ça le problème. C'est toujours l'attitude. C'est toujours comment est-ce que je vois les choses. Parce que naturellement, on va avoir de l'affinité, comme on dit, avec certaines personnes. Mais est-ce que je suis ouvert à que d'autres s'ajoutent au cercle? C'est ça la situation, oui.
Il y a des degrés dans l'amitié, il y a des degrés dans la fraternité. Je sais qu'on est quelques couples ensemble, on a développé une affinité très forte et qu'on réunit souvent. On peut partager des choses entre une amitié forte, une amitié de longue date, qu'on ne peut pas partager avec une jeune personne qu'on connaît depuis, mettons, quelques mois ou quelques années. Okay? Alors, il y a des degrés d'amitié. Ce n'est pas de l'exclusion réellement, mais à la longue, on va développer des amis véritables. Et même tout le monde dans l'Église devrait développer des amitiés véritables avec des frères et des sœurs pour pouvoir se confier et être capable d'aller chercher de l'aide dans des difficultés intimes. Qu'il ne pourra pas faire avec un qui n'a pas une profonde amitié. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas quelqu'un parce que sur une église à 300 personnes, si tu invites tout le monde chez toi à un moment donné, tu vas les inviter à tous les 5 ans ou quelque chose. Il faut développer des amitiés solides.
Oui, c'est ça que je veux vous mettre en garde sur le point. Soyons ouverts à tout le monde.
L'exemple par excellence, c'est Jésus a choisi 12 apôtres, il s'est tenu avec les 12. Puis parmi les 12, il y avait 3 personnes, Pierre, Jean, Jacques. Il y a une particularité avec Jean aussi.
Qui était le cercle intime. Hein?
Oui.
Mais est-ce qu'il a refusé les autres?
Non.
Non. Non. Non, hein? C'est normal, c'est pour ça que je vous dis. Mais soyons toujours aux aguets pour cette affinité avec certains, un groupe petit, de ne pas discriminer les autres. Parce que parfois, une chose que moi j'ai toujours aimé quand on est arrivé pour la première fois à l'église de Rosemont, c'était la diversité, c'était le multiculturalisme ici. À un moment donné, on avait compté combien de nationalités avait dans l'Église. Il y en avait 37 différentes nationalités. Je ne sais pas maintenant. Pour moi, c'est comme un prélude du ciel. Hein? Dans le ciel, toute nation, toute tribu est devant le Seigneur. Ça m'a donné un bon goût des choses. J'aime bien avoir l'interaction avec d'autres cultures. Mais il faut l'avouer, il y a des différences par rapport à nos cultures. Et ça, il faut faire attention encore une fois dans ce contexte-là. Dans le contexte de Jacques, c'était juste des Juifs. Jacques condamne une attitude qui est vraiment mauvaise. Parce que les Juifs, dans une situation de pauvreté très, très accentuée, alors ils voulaient, quand il y avait quelqu'un qui avait l'argent, qui était habillé élégant, que l'argent se voyait par ses habits. Et on les passait, non, monsieur, venez. Mais quand il arrivait, celui qui n'avait que un blazer bleu, oh, toi, tu peux rester là, mets-toi à côté, là, et tu vas rester là. Parce que ça, c'est un péché tellement clair que Jacques doit condamner, doit le dire d'une façon très ouverte. Et c'est pour ça que je répète encore, il paraît que Jacques avait en tête quelque chose de vrai. Un exemple qui s'était produit dans l'Église, c'est ça que plusieurs disent parlant de Jacques. Il ne faut pas. Si nous voyons le verset 1, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Il commence comme ça, le chapitre 2. Il commence avec une exhortation très claire, très directe pour les Juifs de l'Église de Jérusalem. Et lui, si nous allons voir Deutéronome, le chapitre 10, le verset 17 à 19. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présents. » Ça veut dire des pots de vin, pour le mettre dans des mots courants. C'est ça que ça veut dire. Alors, si Dieu ne fait pas ça, parce que les religions ont toujours cru qu'on peut faire des présents à Dieu aussi. Hein. Saviez-vous ça? Et il y a des religions qui apparemment font ça. Par exemple, la religion traditionnelle. Hein. Dans le temps de la réforme, la goutte qui a fait déborder le vase par rapport à Martin Luther, c'était les indulgences. Plus cher tu payais une indulgence, plus vite tu peux rentrer au ciel. C'est donner, d'une certaine façon, des cadeaux à Dieu. Hein. Alors, il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas parce que je donne ma dîme de 5 000 $ que je gagne par mois, si vous le gagnez, là, je le souhaite pour vous, que moi je suis bien devant le Seigneur. J'ai une certaine position meilleure que d'autres qui ne donnent que 20 piastres peut-être, que c'est leur dîme. Alors il faut faire attention. Ici, Deutéronome est tellement clair que le Seigneur ne reçoit point de présent qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'étranger, et même moi, les Québécois de souche, qui fait don à l'orphelin, qui aime l'étranger, lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par étranger? Quelqu'un qui arrive, par exemple, pour nous, dans le contexte de l'Église, un étranger pourrait être une visite qui vient à l'Église, un dimanche. N'importe la façon dont il est vêtu, on doit le recevoir avec amour pour qu'il voit que dans l'Église de Rosemont, il y a l'amour. Et je crois qu'il y a l'amour. Et je crois qu'il y a l'amour, mais est-ce que c'est assez? Ce que nous montrons? Non, on doit croître encore. On doit aller de l'avant dans cet amour qu'on montre aux personnes qui nous visitent. Alors, il y a un problème, et il faut qu'ils soient conscients de ce problème-là, qu'on ne doit pas faire d'acception des personnes, pas pratiquer du favoritisme dans l'Église. Mieux comprendre les implications de ce qu'ils font, ils leur présentent un exemple. C'est pour ça qu'ils disent, s'il y a quelqu'un avec un anneau d'or et puis bien habillé, et vous lui donnez la place d'honneur, c'est mauvais parce que vous faites différence entre vous-même. L'explication dans le programme de Dieu, il a choisi les pauvres, c'est ça que dit Jacques, et les a transformés en riches et héritiers d'un royaume d'abondance qui se révélera dans le futur. Le monde continue désormais à les voir comme les pauvres parce qu'il ne perçoit pas la richesse spirituelle que Dieu donne aux pauvres matériellement parlant. Jacques veut faire la différence entre la richesse de Dieu. Ce ne sont pas les pauvres que Dieu a choisis pour être héritiers. Est-ce que Dieu n'a pas choisi les riches? Est-ce qu'il a choisi juste les pauvres pour être sauvés? Non, mais qu'est-ce que veut dire Jacques? C'est que les pauvres davantage viennent à Dieu cherchant le salut et ils reçoivent l'appel de Dieu plus vite qu'un riche, pour les raisons qu'on a déjà vues dans Matthieu, pour les raisons que Jésus-Christ lui-même a dit, difficilement un riche sera sauvé, parce qu'il est trop collé à ses richesses, parce qu'il aime trop l'argent. Comment je pourrais agir si j'étais millionnaire? Je me demande. Alors, il faut prier avant d'arriver à ce point-là. Priez, mes frères, si à un moment donné vous devenez millionnaire, que vous restiez toujours simple, toujours prêt à faire de bonnes œuvres. Les pauvres ont été enrichis par le salut en Jésus-Christ. Et nous allons avoir une richesse, ou nous avons déjà une richesse qui suffit pour que nous ne soyons pas trop à chercher trop le matérialisme et la richesse matérielle seulement dans le monde, mais que nous cherchions plutôt à amasser des trésors dans le ciel. C'est ça la volonté de Dieu. Les mauvais traitements de la part des riches, c'est tout un contraste. Les enfants de Dieu préfèrent donner plus d'honneur aux riches au détriment des pauvres. Ils ont inversé les priorités. Ils honorent ceux qui les oppriment et ne reçoivent pas ceux qui Dieu a élus comme ses enfants. Le point de vue de Dieu est différent. Il ne les juge pas à cause de l'argent qu'ils possèdent, mais plutôt car ils suivent un système qui va à l'encontre du plan de Dieu. Ils aiment tellement l'argent qu'ils voient les pauvres comme un objet pour en faire davantage. Je parle des riches. Jacques n'attaque pas le fait de posséder de l'argent, sinon le fait de mettre la richesse par-dessus les valeurs et principes chrétiens. Malheureusement, certains chrétiens ont succombé à cette philosophie. Alors, il y en avait qui, il y a des commentaristes qui disent que peut-être que les riches qui parlent Jacques, c'était l'élite de Jérusalem. N'oubliez pas que nous, on est toujours dans le contexte de l'église chrétienne juive, et peut-être de temps en temps les pharisiens ou les sadduciens arrivaient peut-être pour un vrai intérêt ou juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé. N'oubliez pas que sont eux l'origine de la persécution de l'église chrétienne au début de l'église, au début du siècle, du premier siècle. Ce sont les pharisiens et les sadduciens qui ont toujours persécuté l'église, qui ont mis en prison les apôtres quand ils commençaient à prêcher, qui ont mis en prison Pierre, Paul, et sont eux qui ont insulté, injurié le bon nom qui a porté l'Église de Jérusalem, c'est-à-dire le christianisme, Jésus, le nom de Jésus-Christ. Ce sont eux, et c'est à eux que vous lui donnez plus d'honneur qu'aux pauvres. C'est ça que Jacques est en train de dire. C'est pour ça qu'on pense, encore une fois, que c'était peut-être religieux de l'époque qui arrivait de temps en temps à l'Église, ceux qui n'étaient pas vraiment respectueux de la foi chrétienne, mais qui voulait venir juste pour d'autres motifs, peut-être, d'autres intérêts. Et le monde dit, oh, tel monsieur est arrivé, on va lui recevoir, peut-être avoir une certaine faveur de lui plus tard. Alors, le favoritisme, c'est le péché que Jacques est en train de condamner ici. Pour notre réflexion, jusqu'à quel point trouve-t-on ce phénomène dans l'Église d'aujourd'hui? De quelle façon percevons-nous les richesses? Quelles sont mes priorités dans la vie? C'est pour que chacun de nous réfléchisse dans sa propre vie spirituelle. Est-ce que Dieu lui demande à lui et dans quel état on se trouve? C'est sûr que la volonté de Dieu, on l'a vu clairement aujourd'hui, selon Jacques, qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est que nous cherchions à nous aimer les uns les autres, à ne pas faire du favoritisme les uns les autres. Parfois, pour des choses banales, on peut faire du favoritisme, hein, parce qu'il y a quelqu'un d'important. C'est comme la Bible dit que la nature de l'homme est pécheresse. Hein. Par nature, on est des pécheurs. Par nature, on suit les choses du monde, pour l'avouer. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit et la parole pour que nous soyons contrôlés d'une façon différente et que nous allions à l'encontre des principes du monde. Le monde donne la valeur à ceux qui ont l'argent. Hein. Ceux qui sont bien habillés, selon le monde, sont ceux qui valent. Mais nous, les croyants, nous devons nous estimer et nous honorer par le fait d'être chrétien, par le fait d'être une famille, par le fait d'être frère et soeur dans la vie chrétienne, dans la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui doit prévaloir comme principe dans l'Église chrétienne. Nous devons nous aimer les uns les autres malgré nos différences. C'est vrai, parfois, c'est pas, ma personnalité ne va pas avec certains frères ou soeurs, mais je dois prier davantage pour ces frères et ces soeurs. C'est ça. Toujours, toujours, mes frères, et sort l'attitude du cœur, c'est ça que Dieu condamne. Quelle attitude que tu as envers ceux que tu as moins d'affinité? Est-ce que tu veux faire écarter encore davantage la relation que tu as entre lui et toi? Ou est-ce que tu pries, Seigneur, donne-moi l'amour pour ces frères-là, malgré, ou ces sœurs-là, malgré qu'ils m'évitent, malgré qu'ils ne veulent pas me saluer? Regardez, j'ai déjà vu et aidé des frères et des sœurs qui se mettent en inimitié juste parce qu'ils se sont rencontrés. Il n'a pas dit bonjour à lui. Et puis, oh, il m'a ignoré. Peut-être parfois, ça m'est arrivé à moi. Parfois, je suis dans la lune, je pense à quelque chose. Hey, tu ne voulais pas me parler, mon frère? Où est-ce qu'on s'est rencontré? Je n'ai pas voulu te parler. Tu as passé à côté de moi dans l'autobus. Oh, voyez-vous, parfois, il y a des choses comme ça. Si parfois, je passe devant, à côté de vous, je ne vous parle pas, s'il vous plaît, venez me parler. Ce n'est pas que je ne veux pas vous parler. Parfois, on est tellement distrait qu'on peut passer à côté de quelqu'un. Alors, ne donnons pas lieu au diable, hein, pour mettre l'inimitié pour des choses banales dans l'Église. Hein. Celui qui a été offensé doit venir à celui qui l'a offensé pour lui dire, écoute mon frère, et parler, et se mettre en paix. C'est ça l'attitude d'un chrétien. C'est ça l'attitude que Dieu veut et que Jacques veut que nous pratiquions dans l'Église quotidiennement. Que nous ne fassions pas de favoritisme, que nous puissions nous aimer les uns les autres et nous entraider les uns les autres. Cherchons-nous à accomplir la loi de l'amour que Dieu nous demande. Sommes-nous attentifs aux besoins des frères et sœurs? Suis-je ami seulement des gens les plus importants de l'Église, entre guillemets? Suis-je soumis à la loi royale? Alors soyons attentifs, aimons-nous les uns les autres sans favoritisme. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle nous apprend.